Alors, aujourd'hui, on part explorer une nouvelle frontière de l'investissement immobilier, un sujet qui rebat un peu les cartes.
Ah oui.
L'Europe de l'Est.
Un sujet qui intéresse de plus en plus, clairement.
Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur un guide d'investissement vraiment très, très détaillé, qui explore trois marchés qui font beaucoup parler. La Bulgarie, le Monténégro et puis l'Albanie. La mission, en fait, elle est assez claire. Ce guide nous présente un peu comme trois portes d'entrée.
C'est une bonne image, ça.
Il y a la Bulgarie, on va dire que c'est la porte de la raison, déjà bien ancrée dans l'Union européenne.
D'accord.
La seconde, le Monténégro. Ça, c'est la porte du velours. C'est plus cher, mais fiscalement, c'est doré.
Le côté premium.
Voilà. Et la troisième, l'Albanie. Alors là, c'est un peu la porte du Far West. Le plus grand risque.
Mais peut-être le plus gros trésor.
Exactement. Donc, notre but, ça va être de voir non pas laquelle est la meilleure, mais...
Laquelle est faite pour quel type d'investisseur, en fait?
C'est la bonne approche, parce que ce guide, justement, il ne se contente pas de lister des prix. Il dresse des portraits robots de chaque marché.
C'est ça. Derrière l'attrait des prix, qui sont bas par rapport à l'Ouest, se cachent des philosophies d'investissement qui sont radicalement différentes.
On va donc comparer les chiffres, bien sûr.
Oui, prix, fiscalité, rendement. Mais surtout, on va analyser les profils de risque, les moteurs de croissance et puis les pièges potentiels. C'est vraiment une analyse pour aider à bâtir une stratégie, pas juste pour faire un coup.
Parfait. Alors, commençons par la porte de la raison, celle qui semble la plus balisée, la Bulgarie.
C'est ça, la Bulgarie, c'est le choix de la sécurité relative, membre de l'UE depuis 2007,
Déjà?
avec l'adoption de l'euro qui se profile pour 2025. Donc on est dans un cadre juridique et monétaire qui est assez familier.
D'accord.
Et ce que le guide met en lumière, c'est une dualité assez fascinante sur ce marché. D'un côté, la capitale Sofia, en pleine mutation, et de l'autre, la station de ski de Bansko, qui est un marché de niche purement touristique.
Alors justement, commençons par la capitale. Le guide parle d'une hausse des prix à Sofia de plus de 70% entre 2015 et 2021. C'est énorme. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une surchauffe?
C'est la question piège, et le guide y répond de manière intéressante. Cette hausse de 70%, en fait, n'est pas vue comme une bulle spéculative.
Ah non!
Non, plutôt comme un rattrapage structurel. Il faut s'imaginer que Sofia est en train de combler, mais en accéléré, des décennies de retard sur d'autres capitales de l'Est comme Prague ou Varsovie.
Je vois.
L'idée clé ici, c'est que l'investisseur n'achète pas seulement un appartement. Il parie sur la convergence économique de toute une région, avec l'adoption de l'euro comme catalyseur final.
Et les prix aujourd'hui, ça donne quoi?
Aujourd'hui, on est sur des prix entre 3 000 et 5 000 euros le mètre carré dans l'ancien, en centre-ville. Ça reste très en deçà de ses homologues.
Donc il y a encore du potentiel de valorisation.
A priori, oui.
Et à l'opposé complet de cette dynamique, on a Bansko. Là, les prix sont d'un autre ordre. Le guide parle de 900 euros le mètre carré en moyenne.
On change complètement de monde. À Bansko, on n'achète pas un pari sur l'économie bulgare, on achète un actif de loisir.
D'accord. C'est un investissement très ciblé sur le tourisme saisonnier, principalement l'hiver, pour le ski. Le guide donne des exemples concrets, des duplex de 100 mètres carrés pour 100 000, 150 000 euros.
Ah oui, quand même.
C'est un marché d'opportunités, beaucoup plus volatile, mais le ticket d'entrée est dérisoire.
J'imagine que cette différence se voit aussi dans les rendements locatifs.
Absolument. Le rendement, il reflète la nature du risque. Sofia, c'est un rendement stable, prévisible, de 4 à 5% brut.
Classique.
Oui, soutenu par une demande locale forte, l'exode rural, c'est du locatif classique à l'année. Bansko, c'est plus complexe.
Ah.
En moyenne annuelle, on est plutôt entre 3 et 4%, mais c'est un peu trompeur.
Pourquoi? Parce que la rentabilité, elle explose pendant les 4 mois de la saison de ski, et puis elle s'effondre le reste de l'année. Si c'est bien géré en location courte durée, on peut atteindre des pics bien plus élevés.
Et le guide mentionne un avantage majeur commun aux deux pays, la fiscalité, une flat tax à 10% sur les revenus locatifs.
C'est l'argument massue de la Bulgarie, un taux forfaitaire de 10%. Et le guide insiste sur un point technique, mais crucial.
Lequel?
La convention fiscale avec la France qui évite la double imposition.
Attendez, ça, il faut l'expliquer. Concrètement, ça veut dire quoi pour un investisseur français?
Ben, concrètement, ça veut dire que les 10% que vous payez en Bulgarie sur vos loyers sont libératoires. L'administration fiscale française ne va pas venir vous réclamer une deuxième fois la différence avec son propre taux, qui est bien plus élevé.
Ah oui, d'accord.
C'est un avantage fiscal énorme et ça change radicalement le calcul de la rentabilité nette. Si je loue un appartement 500 euros par mois à Sofia, je ne paie que 50 euros d'impôt dessus. Point final.
C'est très clair. Donc la Bulgarie, c'est le pari de la convergence, un jeu de patience et de sécurité.
C'est une bonne synthèse.
Mais le guide nous montre que le pays suivant, le Monténégro, joue une carte radicalement différente. On n'essaye pas de copier l'Ouest, on cherche plutôt à attirer une clientèle de luxe mondial. Ça ressemble presque au modèle de Monaco, non ?
C'est exactement ça. Le Monténégro, que le guide appelle l'Eldorado Adriatique, a un positionnement résolument premium. On ne vient pas ici chercher les prix les plus bas.
Non.
On vient chercher un cadre de vie exceptionnel sur la côte adriatique, couplé à une fiscalité qu'on peut qualifier d'agressive. C'est ce cocktail qui a attiré des marques comme Four Seasons ou One and Only. Leur présence, elle n'est pas anecdotique, hein. Elle légitime le positionnement haut de gamme et crée un appel d'air pour une clientèle internationale fortunée.
Et au niveau des prix, du coup, ça donne quoi selon le guide ?
Le guide parle d'une grande variabilité.
Oui, le marché est très segmenté. À Budva, la Saint-Tropez locale, la moyenne est à 2750 euros le mètre carré. Mais la fourchette est immense.
C'est-à-dire ?
Ça va de 1 800 à plus de 6 000 euros pour des biens d'exception en front de mer. La capitale, Podgorica, à l'intérieur des terres, est plus accessible, autour de 1 500 euros. Mais elle n'a pas le même attrait.
Non, bien sûr.
L'investissement se concentre vraiment sur le littoral. Le guide met en avant un chiffre qui m'a frappé pour le Monténégro. 9% d'impôts sur les sociétés et les revenus immobiliers. C'est incroyablement bas. Est-ce que ça veut dire que le pays se positionne ouvertement comme un paradis fiscal au cœur de l'Europe ?
Le terme paradis fiscal est toujours un peu sensible, mais le positionnement est clair. Attirer les capitaux et les résidents à haut potentiel. Un taux à 9%, c'est l'un des plus compétitifs d'Europe.
C'est sûr.
Mais le vrai game changer sur lequel le guide insiste, c'est l'absence totale d'impôts sur la fortune immobilière.
Ah oui ?
Pour des patrimoines importants, c'est un argument décisif. On ajoute à ça la perspective d'adhésion à l'UE, gage de stabilité, et des investissements massifs dans les infrastructures, et on a la recette d'un marché qui vise la valorisation à long terme.
Et le rendement locatif, du coup ?
Il est plus modeste, entre 3,5 et 4,5%, parce que les prix d'achat sont déjà élevés.
On comprend la stratégie. On n'est pas du tout sur le même type d'investisseur qu'en Bulgarie.
Pas du tout.
Et ça nous amène à notre troisième porte, celle du Far West 6, l'Albanie. Alors là, les chiffres cités dans le guide sont spectaculaires. 700 euros le mètre carré à Durrës, sur la côte.
Oui.
C'est le prix d'une place de parking à Paris. On a du mal à y croire. Qu'est-ce qui explique un tel décalage ?
C'est le reflet d'un pays qui est parti de beaucoup plus loin et qui connaît une croissance fulgurante. L'Albanie, c'est le joyau caché de la région. C'est la destination la plus abordable, et de loin.
Vraiment ?
On parle de prix moyen entre 1200 et 1500 euros le mètre carré dans la capitale, Tirana, et on tombe effectivement à 700 à Durrës. C'est presque 50% moins cher que ses voisins.
Mais attendez, le guide relève une hausse de 47% des prix entre 2021 et 2023. Ça sonne comme une alerte à la bulle, non ? Est-ce que le guide analyse si cette croissance est saine ?
Oui, le guide aborde ce risque. C'est le fameux compromis du Far West.
D'accord.
Le risque réglementaire, la volatilité, tout ça est plus présent. Cependant, cette croissance explosive n'est pas que spéculative. Elle est portée par des fondamentaux solides.
Comme quoi ?
D'abord, une croissance économique robuste, avec un PIB en hausse de 3,5% en 2023. Et ensuite, et c'est le moteur principal, une véritable explosion du tourisme.
Ah oui ?
La source mentionne 8,3 millions de visiteurs en 2023. C'est une augmentation de 56% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Le monde découvre l'Albanie et l'immobilier suit.
Cette explosion du tourisme explique les rendements locatifs, que le guide annonce entre 5 et 6% bruts, les plus élevés de la région.
C'est ça.
Mais un rendement brut de 5 à 6%, ça fait briller l'Albanie sur le papier. Est-ce que le guide met en garde sur la différence entre le brut et le net ? Entre la corruption qui peut exister, les difficultés de gestion à distance, ce chiffre ne risque-t-il pas de fondre ?
C'est une critique très juste et le guide ne l'élude pas. Ce rendement de 5-6%, c'est une estimation haute qui suppose une bonne gestion. Les défis opérationnels sont réels.
Il faut des partenaires locaux, j'imagine.
Indispensable. Et côté fiscalité, c'est aussi un compromis. Le taux d'imposition est plus élevé, à 15%.
Ah, plus que les autres.
Oui, mais en contrepartie, pas d'impôt sur la fortune immobilière et surtout des programmes d'exonération fiscale de 5 ans dans certaines zones touristiques.
D'accord, il y a quand même un avertissement à prendre en compte, non?
Oui, un avertissement de taille. Une réforme fiscale est prévue pour 2026.
Ah.
La taxe foncière, aujourd'hui très faible, sera calculée sur la valeur de marché réelle des biens. Ça pourrait significativement impacter les coûts de détention et donc la rentabilité nette. C'est un point de vigilance crucial.
Donc, investir en Albanie, c'est accepter une part d'incertitude.
En échange d'un potentiel de croissance exceptionnel, c'est le pari.
Bien. Alors, si on met tout ça en perspective, on a nos trois portes bien définies. La sécurité en Bulgarie.
Le luxe fiscalisé au Monténégro.
Et le haut rendement accessible mais risqué en Albanie.
Exactement.
Et le guide va plus loin, il propose des stratégies concrètes.
Oui, et ça, c'est la partie la plus opérationnelle. Il ne s'agit pas juste de comparer, mais de voir comment ces opportunités s'intègrent dans un projet patrimonial selon le budget et les objectifs.
Alors prenons un premier profil, un investisseur qui débute avec un budget, disons, inférieur à 150 000 euros. Que recommande le guide?
Deux options très claires se dégagent. La première, c'est l'Albanie, pour le rendement et le ticket d'entrée qui est imbattable. Avec ce budget, on peut acquérir un bien de qualité à Durrës et viser un cash flow positif rapidement.
Et la deuxième?
La deuxième, c'est Banksko, en Bulgarie. C'est un investissement très différent, ciblé sur le locatif saisonnier. Et d'ailleurs, le guide mentionne à ce moment-là des rendements potentiels de 8 à 10% pour Banksko.
Ah oui, c'est bien plus que les 3-4% dont on parlait avant.
Exactement. Ça souligne le potentiel des locations saisonnières, qui sont très bien gérées et optimisées.
D'accord. Passons à un profil plus expérimenté. Quelqu'un qui cherche un équilibre entre sécurité et performance, avec un budget plus conséquent, autour de 250 000-300 000 euros.
Pour ce profil, la Bulgarie, et plus précisément Sofia, devient l'option la plus logique. Le budget permet d'accéder à des biens de qualité dans les meilleurs quartiers.
Mmh.
C'est un marché mature, stable, avec le potentiel de l'euro qui arrive. C'est un pari sur la valorisation à moyen terme dans une capitale européenne. Moins de rendement brut qu'en Albanie, mais une tranquillité d'esprit bien supérieure.
Et enfin, pour les gros patrimoines, disons au-delà de 500 000 euros.
Là, sans hésiter, le Monténégro devient la destination la plus pertinente. C'est à ce niveau d'investissement que les avantages fiscaux, et surtout l'absence d'impôt sur la fortune, prennent tout leur sens.
Oui, l'impact financier devient significatif.
Exactement. Et en plus, la clientèle internationale aisée assure une meilleure liquidité pour la revente de biens haut de gamme. C'est un facteur de sécurité non négligeable quand on investit des sommes importantes. On sait qu'il y aura un marché pour sortir.
Je comprends la logique, mais est-ce que cette segmentation par budget n'est pas un peu simpliste? Un investisseur débutant ne pourrait pas s'intéresser au Monténégro ou un gros patrimoine chercher le rendement de l'Albanie?
C'est une excellente objection. Bien sûr, ce ne sont pas des cases rigides. Le guide les présente comme des stratégies par défaut.
D'accord.
Un investisseur avisé avec un gros patrimoine pourrait tout à fait allouer une petite partie de son portefeuille à un projet à haut rendement en Albanie, en pleine conscience du risque.
Et inversement.
Et inversement, oui. Un investisseur avec un plus petit budget, mais une forte appétence pour le luxe, pourrait s'endetter pour viser un petit studio dans un complexe de prestige au Monténégro. La clé, c'est l'adéquation entre l'opportunité et la stratégie globale de la personne.
Donc, ce que cette analyse nous apprend, au fond, c'est qu'il n'y a pas de meilleur investissement en Europe de l'Est.
Non.
La réponse dépend entièrement des objectifs, du capital et de la tolérance au risque de chacun.
Exactement. Le guide suggère même une approche de diversification pour ceux qui le peuvent.
C'est-à-dire?
Un bien en Albanie pour le rendement pur, le cash flow. Un autre, à Sofia, pour la sécurité du capital et la valorisation à long terme. Et peut-être un investissement saisonnier au Monténégro ou à Bansko pour capter la croissance du tourisme.
Construire un portefeuille européen équilibré, en somme.
C'est l'idée. Et si on prend un peu de recul, toute cette analyse repose sur un facteur clé, un fil rouge qui traverse toute notre discussion.
Ah oui, lequel?
C'est la perspective d'intégration européenne pour l'Albanie et le Monténégro. C'est ça le plus puissant moteur de valorisation à long terme.
Mm.
Et ça soulève une question intéressante pour la suite. Quelle part de ce potentiel futur est déjà intégrée, prissée, dans les prix actuels?
Et quel serait l'impact si le calendrier de cette intégration venait à changer?
L'impact serait dévastateur. Et ça nous rappelle la différence fondamentale entre investir sur des fondamentaux économiques présents et solides et parier sur des événements politiques futurs qui sont par nature beaucoup plus incertains.